Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Présenté par Belinda Bossouma, voici le sommaire. En ce moment même, se tient à Kinshasa le 42e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la SADC. Travaux ouverts cet avant-midi au Palais du Peuple. À cette occasion, Félix-Antoine Tshisekedi sera consacré président de la SADC pour 2022-2023. Province du Kasaï, interdiction d'exporter le maïs et le manioc de Tshikapa vers d'autres provinces. Décision du gouvernement provincial pour faire face à la flambée de prix des denrées alimentaires dans cette partie du pays. Et puis, bientôt le lancement du projet de stabilisation et relèvement de l'Est de la RDC. Appuyé par la Banque mondiale, ce projet vient en appui au programme DDRCS dans le Nord et Sud Kivu ainsi qu'en Ituri. Pour en parler, nous recevons Maniam Mubonge, spécialiste en sauvegarde environnementale et sociale du dit projet. Madame, Messieurs, bonjour. 16 pays de l'Afrique australe faisant partie de la SADC sont réunis depuis ce mercredi matin dans la salle de plénière du Palais du Peuple à Kinshasa. C'est pour le 42e sommet ordinaire de la SADC. 12 chefs d'État et des représentants des gouvernements vont au cours de ces assises de 2 jours valider les résolutions issues des travaux ministériels tenus la semaine dernière. Au cours de cette même cérémonie, Félix-Antoine Tshisekedi reçoit le bâton de commandement pour la présidence de la SADC exercice 2022-2023. Cette présidence de la RDC fait face à un certain nombre de défis, tels la santé, mais surtout les questions économiques, la sécurité maritime dans la sous-région, la zone de libre-échange en Afrique australe, laquelle doit être soutenue par la zone de libre-échange continentale, mais aussi la mise en place des agences spécialisées et leurs mécanismes d'exécution. Ces défis sont consécutifs aux objectifs de la SADC, qui consiste entre autres à réaliser le développement et la croissance économique, alléger la pauvreté, mettre en valeur le niveau et la qualité de la vie des peuples australes et assister les désavantagés sociaux par l'intégration régionale ainsi que la promotion des valeurs communes des démocraties. Je vous propose ici un extrait de l'allocution du président Félix-Antoine Tshisekedi.
Mesdames et messieurs, je suis honoré par votre présence ici à Kinshasa en répondant massivement à l'invitation vous lancée en marge du 42e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté de développement de l'Afrique australe, la SADC en sigle. En effet, l'organisation de ce 42e sommet à un moment particulièrement difficile témoigne de notre ferme volonté et engagement de contribuer à l'émergence de notre communauté. Ainsi, au nom du peuple congolais et au mien propre, je tiens à vous souhaiter la bienvenue et un agréable séjour à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Je vous remercie.
Entre-temps, au Nord Kivu, un calme précaire règne sur la ligne de front entre les FARDC et les terroristes du M23 dans le territoire de Rutshuru. C'est après des violents combats toute la journée d'hier dans les villages de Rwanguba, Rangira, Muimbira et Tanda dans le groupement de Jomba. Plusieurs villages de la zone se sont à nouveau vidés de leur population, indiquent des sources locales. Et dans le territoire de Beni, les jeunes de certains groupes armés de l'ouest et sud du territoire commencent à regagner leur milieu d'origine. Ceci après avoir passé un long moment dans leur site de cantonnement dans l'attente du programme de désarmement et réinsertion communautaire qui tarde à venir. L'armée estime que leur décision est responsable en attendant les informations concrètes les concernant. Des précisions avec Blaise Shindani Kambala.
Ces jeunes, majoritairement de groupe Mai Mai de Union des Patriotes pour la Liberté du Congo, avaient leur base dans les entités du groupement Bashwaga Madiwe à l'ouest du territoire et vers la partie sud, notamment à Kulunguta. Certains d'entre eux venus des entités telles que Kirisingi, Kikondi, Pasamaï 1, Kilikoma, Peboé, Sula, Kavingu, Kiandaga, pour ne citer que ça, regagneraient leur milieu et se sont donnés aux activités champêtres. Pour l'armée, ces jeunes ayant déposé les armes ont manifesté des engagements patriotiques et doivent être sécurisés. Le capitaine Anthony Mwalushai, porte-parole des opérations Sokola 1.
Tout celui qui dépose son arme revient à la raison. Pour nous, l'armée, c'est un compatriote conscient. Nous
sommes obligés de les sécuriser, nous sommes obligés de les accompagner. Mais pour l'instant, nous savons que les Maïmaï qui ont quitté la Bourse, ils sont entonnés à Kalunguta avec leur chef, ils sont là-bas. Et nous, en tant qu'armée, nous allons prendre des dispositions pour les sécuriser.
Rappelons que deux grands sites regroupent actuellement ces combattants de groupes armés, Kulunguta vers le sud et Bashwaga Madiwe à l'ouest.
Nord Kivu toujours, les déplacés de guerre de Rutshuru, hébergés sur le site de Kanyaruchinya dans le territoire de Nyiragongo, demandent à être délocalisés. C'est à cause de la promiscuité et des accidents récurrents dont leurs enfants sont victimes au niveau de la grande route près du site, mais aussi de la rentrée scolaire qui y approche. Le président de ce site dit avoir enregistré 12 cas d'accidents impliquant majoritairement des enfants, ce depuis leur arrivée en juin dernier. À cela s'ajoute le manque d'assistance humanitaire et les conditions inhumaines auxquelles ils sont soumis. Théo Moussekoura, président du site des déplacés de Kanyaruchinya, lance ici un SOS au gouvernement et aux humanitaires. On l'écoute.
Nous sommes dans des sites différents, dans des églises et dans des écoles. Nous voulons que nous puissions quitter les écoles car demain ou après-demain, c'est notre rentrée scolaire. Et voilà que nous confrontons beaucoup d'accidents. Nous n'avons pas même d'assistance, de vivres et non-vivres, pas même d'eau. Et voilà que nous continuons toujours à souffrir. Dès notre arrivée, le mois de juin, nous avons déjà enregistré 12 cas d'accident et nous avons déjà enregistré 5 cas de mort. Nous continuons toujours à supplier les gouvernements et les ONG de venir intervenir, surtout sur notre problème, qu'ils cherchent les moyens possibles pour trouver là où nous devons construire, pour éviter les accidents et pour éviter les condamnements de gens dans des églises et écoles. Le nécessaire est que le gouvernement termine la guerre et que nous puissions rentrer chez nous pour continuer notre vie quotidienne.
Notez que 2690 ménages des groupements Jomba, Kisigari et Bweza ont fui leur village depuis bientôt 3 mois. Ils sont répartis dans 23 sites, écoles et églises, notamment dans le territoire de Nyiragongo. Pendant ce temps, à Butembo, le gouverneur du Nord Kivu, le général Constant Ndima, a remis mardi un lot important de vivres à la prison de Kakwangura, d'après Brunel Nkassa, directrice de cette maison carcérale qui a réceptionné ce don. Il s'agit de 150 sacs de semoule, 25 bidons d'huile de palme de 20 litres, 10 sacs de haricots de 100 kg et un camion de bois de chauffe. Tout en saluant ce geste, Brunel Nkassa encourage également les personnes de bonne volonté à emboîter le pas. Elle rapporte qu'actuellement, la prison de Kakwangura héberge 260 détenus sur les 874 évadés de la prison lors d'une attaque ADF il y a une semaine. Pour l'instant, les 614 autres détenus courent encore dans la nature. Rendons-nous dans le territoire de Manono, province du Tanganyika. La population dénonce la tracasserie au niveau des différentes barrières érigées par des éléments des FARDC. Chaque passage est conditionné par le paiement d'une somme d'argent. Pour le chef de la chefferie Bakongolo, sur l'axe Kanteba vers Kakeloa, il y a une barrière des militaires des FARDC qui exigent de l'argent. Il précise qu'un motard sans bagage paye 2000 francs et avec bagage 5000 francs. On écoute le coordonnateur provincial de la Société civile Force vive de Manono, l'abbé Moïse Kilouba, joint par Paulin Munanga.
Il y a des barrières érigées dans les environs de la cité de Manono, par exemple dans l'axe Kanteba. Au sortir, disons, de la cité de Kanteba vers le village Kakeloa, à 5 km de Kanteba, il y a une barrière militaire. Et sur cette barrière, les piétons payent 1000 francs, et les vélocyclistes aussi 1000 francs. À 70 km d'Ankoro, dans le village Mpandangela, il y a une barrière érigée là-bas. Alors, quand vous arrivez sur la route Lubumbashi-Manono, vous trouvez aussi une barrière à Kisuji, et les paiements, c'est la même chose. Alors, la population se trouve dans une grande difficulté et lance un cri d'alarme auprès du gouvernement provincial pour que ces barrières soient levées.
De son côté, le commandant des FARDC à Manono indique que les militaires sont en position au niveau des postes d'observation. Il précise que cette entité est une zone rouge et les éléments se positionnent contre d'éventuelles incursions des Maïmaï. Cependant, il promet de vérifier toutes ces allégations. Direction le Kassai, le gouvernement provincial interdit l'exportation de maïs et de manioc de Tchikapa vers d'autres provinces. Cette décision annoncée par le ministre provincial de l'Agriculture fait suite à la flambée de prix des denrées alimentaires, dont le maïs, dans cette partie du pays. Diallo Meba a également annoncé l'allègement des taxes à l'entrée des produits agricoles dans la ville. Plus de détails avec François Kadima.
Depuis quelques semaines, le prix de produits de première nécessité ont pris de l'ascenseur à Tchikapa au Kassai. Le seau de maïs, qui s'est négocié à 12 000 francs congolais, est passé à 20 000 francs congolais. Cette situation est liée aux perturbations de l'une des saisons culturelles avec des pluies qui n'ont pas permis une grande production, mais aussi l'exportation des sacs de maïs vers Kinshasa par les commerçants suite à la forte demande sur le marché. Pour permettre à la population de Tchikapa de consommer la quantité produite localement, le gouvernement du Kassai a décidé d'interdire l'exportation. Diallo Meba est le ministre provincial de l'Agriculture.
Le comité des conjonctures, dont moi-même je suis président, a décidé de ne plus laisser sortir les maïs de notre province. À dater de ce jour, et les mesures seront communiquées par tous les postes que vous connaissez des sorties. Mais les gens de Dekese, Mweka, Luebo, et comme ils n'amènent pas ici, peuvent continuer à faire leurs activités comme par le passé.
D'autres mesures ont été prises également pour faire face à cette flambée de prix de produits alimentaires. C'est notamment les allègements fiscaux sur le produit. Pour permettre aussi l'entrée de maïs à Tchikapa, le ministre Meba a également parlé d'une possibilité de construire la route du corridor nord qui permettra de faciliter l'arrivée de maïs des Mweka, Ilebo et Luebo. De Kananga, François Kadima, Radio Kapi.
Province du Kwilu, les véhicules et motos ne savent plus passer dans certaines communes de la ville de Kikwit. La ville est menacée par plus de 25 ravins en pleine progression. Plusieurs avenues sont déjà coupées, le cas du boulevard Kanzombi. Le service urbain de la protection civile de Kikwit, qui a enquêté sur la situation en mai dernier, alerte que le pont Kwilu sera sur le point de s'effondrer si rien n'est fait à l'urgence. Le coordonnateur de ce service, Vladimir Kuzangela, recommande entre autres la construction des bassins de rétention d'eau et le respect des normes urbanistiques de lotissement pour lutter contre ces érosions. Des détails avec Irène Boma.
Bientôt, le trafic sera coupé entre la ville de Kikwit et les territoires de Gungu, Djofa et Kayemba dans le Kwango, ainsi que la province du Kasai. Le pont Kwilu qui les relie est menacé par les ravins OTT longs de 200 mètres. Si aucune mesure n'est prise en urgence, ce pont va s'écrouler. De l'autre côté, le boulevard Lumbidi menant vers l'hôpital de Kanzombi est impraticable car coupé par 3 ravins. La commune de Lukemi est la plus touchée. Elle compte 9 ravins et plusieurs de ses artères principales vont bientôt disparaître. La situation est encore compliquée dans la commune de Kazamba qui en a 8, empêchant ainsi la circulation des véhicules et des motos. Selon le coordonnateur urbain du service de protection civile de Kikwit, ces ravins sont causés par le manque de canalisation des eaux de pluie et la mauvaise urbanisation de la ville. Vladimir Kuzangela en appelle à la responsabilité des autorités compétentes.
Pensez à nous construire des caniveaux pour la canalisation d'eau de pluie, l'allocation des moyens financiers pour les cantonnages manuels, faire des bassins de rétention d'eau, qu'il établisse aussi un bon plan cadastral pour la ville.
Il appelle également chaque ménage de Kikwit à disposer d'un trou de rétention d'eau de pluie. Irène Boma, Bandundouville, Radio Okapi.
Direction le Sud Kivu. Cette bonne nouvelle, la régie des eaux Bukavu dit avoir enregistré ces derniers temps une amélioration dans la desserte en eau potable au robinet, situation attribuée à la nouvelle stratégie de gestion des réseaux de distribution en cette période de saison sèche. Toutefois, la régie des eaux Sud Kivu dit déplorer certaines pratiques de raccordement clandestin ou frauduleux. Valère Ntumba Kaembe, directeur provincial de la régie des eaux Sud Kivu, explique la situation au micro de Emmanuel Elameji.
Cette année, nous avions pensé protéger les débits de la rivière Murundu, parce que souvent pendant la saison sèche, nous avons le moment maraîcher qui font souvent des irrigations, qui dévient la rivière pour pouvoir arroser leurs champs. Et nous avons pensé les doter des arrosoirs pour qu'ils ne puissent pas toucher à la rivière. Je vois que cette opération a payé parce que nous avons un débit suffisant pour produire de l'eau en quantité suffisante cette année ici. Au niveau de la distribution, on a installé un système de bypass qui nous permet d'allonger les aires de refoulement de l'eau au réseau. C'est ainsi que tous les coins qui étaient frappés de manque d'eau, pour certains, la plupart ont maintenant de l'eau. Mais cette fois-ci, c'est un peu regrettable. Nous enregistrons aussi des cas de vol d'eau dans la commune d'Ibanda. Nous venions découvrir des gens qui utilisent frauduleusement notre eau pour construire des grands immeubles, mais avec de l'eau volée à la régie des eaux. Et nous continuons à déplorer cette situation à travers la ville de Bukavu.
Dans l'actualité, sachez aussi que le Fonds des Nations Unies pour la Population a organisé pour 2 jours à Kinshasa une formation de renforcement des capacités en faveur d'une dizaine de journalistes et blogueurs congolais. La formation porte précisément sur les questions liées au décès maternel ainsi que leur couverture médiatique. Cet atelier se déroule dans le cadre du 5e programme de coopération qui met en œuvre plusieurs stratégies pour obtenir des résultats qui méritent d'être connus, principalement par les communautés et aussi les donateurs qui soutiennent l'action de l'UNFPA. Des précisions avec Florence Kiza.
Dans le cadre de sa coopération avec les gouvernements congolais, UNFPA exécute un ambitieux programme axé sur l'amélioration de la santé sexuelle et reproductive des femmes, adolescents et des jeunes. La lutte contre la mortalité maternelle et néonatale, la lutte contre les violences basées sur le genre et l'autonomisation de la femme. En exécutant ce programme, UNFPA vise à atteindre 3 résultats transformateurs, à savoir 0 décès maternel évitable, 0 besoin non satisfait en matière de planification familiale et 0 violence basée sur les gens. Dans ce cadre, un volet important concerne la mise en place des dispositifs minimums d'urgence à travers un paquet de services complets pour les urgences humanitaires. Par ailleurs, l'organisation de la 2e recensement général de la population et de l'habitat constitue une des priorités de l'UNFPA en RDC. C'est ainsi que cette session de formation cherche à mettre à jour les connaissances de ces professionnels des médias sur les nouvelles données en matière d'intervention auprès des communautés sur la prise en charge des catastrophes naturelles, susciter en eux l'intérêt pour les traitements et la diffusion des informations sur la santé maternelle et enfin créer un pôle de journalistes qui accompagne la mise en œuvre des activités des UNFPA sur terrain.
Actualité internationale.
Une forêt du nord du Maroc est en proie aux flammes depuis 2 jours. Plus de 120 hectares sont déjà partis en fumée. 4 hommes soupçonnés d'avoir déclenché cet incendie ont été interpellés et remis à la police judiciaire avant d'être déférés devant la justice, ont précisé les autorités locales. La Corée du Nord a tiré 2 missiles de croisière ce mercredi, a annoncé le ministère de la Défense sud-coréenne. Il s'agit du premier test d'armement de Pyongyang depuis plusieurs semaines.
L'invité.
Le gouvernement congolais, appuyé par la Banque mondiale, lance bientôt le projet de stabilisation et relèvement de l'Est de la RDC. Ce projet, d'une durée de 7 ans, vient en appui au programme DDRCS dans 3 provinces, soit le Sud Kivu, le Nord Kivu et l'Ituri, avec un coût de 250 millions de dollars. 3 territoires sont concernés au Sud Kivu, Kalehe, Mwenga et Shabunda. Le projet de stabilisation et relèvement de l'Est de la RDC démarre probablement en janvier 2023, indique Mania Mbonge, le spécialiste en sauvegarde environnementale et sociale du dit projet. Il s'entretient à ce sujet avec Jean Kassami.
Bonjour monsieur.
Bonjour monsieur le journaliste.
C'est quoi le projet de stabilisation et de relèvement de l'Est?
Le projet, c'est un projet de l'État congolais dont le financement est de la Banque mondiale. C'est pour venir aider le gouvernement de la RDC pour la paix, la sécurité et le développement au niveau des 3 provinces de l'Est, notamment la province de Sud Kivu, la province du Nord Kivu et la province de l'Ituri. Et cela, c'est à partir de 2021, quand le chef de l'État a décrété l'état de siège dans les 2 provinces, et il a mis en place un programme de mobilisation, désarmement, réinsertion communautaire et sociale qu'on appelle le programme PDDRCS. Il faudrait qu'il y ait l'appui, et c'est le projet vient en appui à ce programme pour aider à la démobilisation communautaire.
Et comment sera orientée cette aide-là?
L'aide est orientée par des individus vulnérables de la communauté ou des communautés qui sont dans ces provinces, en premier lieu, mais aussi les individus ici des groupes désarmés au niveau de ces provinces. C'est comme ça que nous allons les aider à travers les infrastructures socio-économiques de base, la construction des écoles dans ces zones, la construction des centres de santé, des addictions d'eau, mais aussi à travers un paquet d'appuis socio-économiques, notamment à travers les travaux de haute intensité de la main-d'œuvre et les activités génératrices de revenus et l'encadrement psychosocial.
Et quelle sera la particularité du projet de stabilisation de l'Est par rapport aux autres projets antérieurs?
Alors, la particularité est que nous allons travailler directement, appuyer les communautés qui sont ici, des communautés vulnérables dans ces zones, et elles-mêmes vont arriver à choisir leurs propres projets, leurs propres activités à mettre en place, et le projet va les appuyer. On ne veut pas imposer, on ne veut pas donner le projet, mais les communautés, les entités territoriales décentralisées, les autorités locales au niveau de la province, ils choisissent, voici l'activité que nous voulons pour la communauté et pour les besoins locaux de la communauté.
Dans quel domaine précis intervenez-vous?
Et le projet est vraiment dans le cadre de la stabilisation et la paix et la sécurité.
Et alors, comme nous sommes dans une région en proie à la guerre, est-ce qu'il n'y a pas de contraintes qui risquent de compromettre l'aboutissement heureux du projet?
C'est ça le problème. Effectivement, le projet sera mis en œuvre dans un contexte de sécurité. Il y a ces problèmes dans la zone. C'est là qu'on devra interpeller tout le monde, notamment les autorités, la communauté locale, que chacun sensibilise à son niveau les frères et les amis qui sont dans les zones, qui sont dans la forêt, pour qu'ils fassent la paix, qu'ils quittent la forêt, qu'ils viennent intégrer le processus PDDRCS, ceux qui veulent rentrer dans la communauté pour qu'ils bénéficient des actions de développement que le projet va amener.
Comme tout projet, elle a une vie. Le démarrage, c'est quand et ça prend fait quand?
Le projet probablement démarre en janvier 2023 et le projet a une durée de 7 ans pour son exécution. Et le projet a 250 millions de dollars avec 5 composantes.
Merci beaucoup.
Voilà, c'était là notre invité, le spécialiste en sauvegarde environnementale et sociale du projet de stabilisation et relèvement de l'Est de la RDC, Mania Mubonge, répondait aux questions de Jean Kassami. C'est la fin de ce journal, coordonné par Élisée Chikotachi-Vueta, supervision de Martin Sebujangwe, à la mise en onde Mimi Kindu et Belinda Bosuma, vous la présentez. Merci de nous avoir suivis.